On a face à nous une guerre qui a été déclenchée dans le détroit d'Ormuz.
Ah bah ceux qui payent les économies, c'est les Français. C'est-à-dire les services publics, les politiques qui avaient été votées et qui sont utiles pour les gens.
En baissant la dépense publique pendant une crise, il l'aggrave. Puisque je rappelle à mes collègues que la dépense publique, ce sont aussi des recettes.
Non seulement le budget passe en force par 49.3 pour la Xème année consécutive, mais qu'en plus... Ça veut dire que finalement, c'est Bercy, dans l'exécution du budget, qui décide in fine qui a le droit de dépenser quoi.
On a une stabilité du budget, on a de nouvelles dépenses. Eh bien, malheureusement, il faut un moment ou un autre trouver les recettes ou les moindres dépenses.
On est tous les trois, on s'entend bien, on travaille ensemble. Voilà, donc tout va très bien au Parti Socialiste.
On nous envoie dans un tunnel dont il n'y aurait qu'une seule issue. Ce serait un accord avec le Parti Socialiste.
D'entrée de plume, le gouvernement vient d'oreiller 6 milliards dans le budget, déjà anémique, adopté au début de l'année. C'est la faute à la guerre, dit l'exécutif. L'ennui, c'est que les députés n'ont pas été consultés et ne le seront pas. Bercy fait ses petits tripatouillages dans son coin. C'est ce qu'on regarde dans ce numéro 152 du Bonbon de Serge. Imaginez, c'est dimanche, vous êtes tranquillou chez vous, en train de déjeuner en famille. Même les ados, malgré leur air revêche, ont consenti à mettre les pieds sous la table, tandis que le chien s'est lancé dans son exercice favori, la mendicité lacrymale. Tout à coup, on sonne à la porte. Un type en costard, aussi gris que sinistre, pénètre dans la salle à manger, pique le poulet, le place dans une glacière et vous dit avec une voix de croque-mort « Vous dépensez trop !» On vous le rendra dans quelques mois si Trump s'est calmé. Et si ça ne va pas mieux, je reviendrai vous prendre les patates. Interloqué, vous bredouillez que vous tirez la langue à chaque fin de mois et que le poulet, ce n'est pas du caviar ou du homard. Faudrait voir à ne pas exagérer. Mais c'est trop tard, le gars en costard est parti sans même vous écouter alors que vous abordiez le prix de l'essence et le tarif des mutuelles. Dans la vraie vie, ce type existe. Il s'appelle David Amiel. C'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et il vient d'amputer le budget de l'État de 4 milliards et celui de la Sécurité sociale de 2 milliards.
On a face à nous une guerre qui a été déclenchée dans le détroit d'Ormuz, qui nous oblige à la fois à protéger les Français qui sont en première ligne du choc, travailleurs des classes populaires et des classes moyennes, secteurs économiques qui sont les plus affectés par l'explosion des prix du pétrole, tout en gardant notre capacité à les protéger dans le futur, à la fois le futur proche, dans le cas où la crise viendrait à durer, mais aussi dans les prochaines années, parce qu'on est entré dans un moment international où désormais les crises succèdent aux crises. On avait connu en 2025 un début de guerre commerciale internationale déclenché par la Maison-Blanche. On a évidemment connu en 2022 l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et sans jouer aux oiseaux de mauvais augure, je ne sais pas ce que 2027, 2028, 2029 nous réservent. Et donc c'est la raison pour laquelle les mesures que nous sommes amenés à prendre doivent être financées pour garder des marges de manœuvre à la fois dans la réponse à la crise, mais aussi pour permettre aux prochains gouvernements qui seront amenés à nous succéder à avoir eux aussi les marges de manœuvre qui sont indispensables. De cela se tirent trois leçons. D'abord, la première, c'est évidemment de tirer les enseignements de la gestion de la crise 2022-2023. Il faut pouvoir aider face au choc, mais il faut aussi pouvoir préserver notre budget et donc financer chacune des mesures que nous sommes amenés à prendre.
Dans le détail, voilà comment ça va se passer. Les allègements de cotisations sociales ne suivront pas la revalorisation du SMIC au 1er juin, ce qui veut dire que l'État déboursera 2,2 milliards de moins. Par ailleurs, l'exécutif va procéder à un surgel des crédits de plusieurs ministères à hauteur de 3,2 milliards. Un surgel, c'est la mise en réserve à titre préventif d'une partie du budget d'un ministère hors dépenses du personnel. Ces crédits ne peuvent pas être engagés ou dépensés sans autorisation du ministère du budget. Ils peuvent être débloqués dans l'année ou bien purement annulés. Ils peuvent encore être reportés sur le budget de l'année suivante. Même Picard n'avait pas pensé à ça. Enfin, l'exécutif a annulé purement et simplement 847 millions de crédits. Mais il a dans le même temps ouvert une ligne de 407 millions d'euros pour financer les aides ciblées annoncées par le Premier ministre. Le procédé fait grincer des dents les députés.
Ah bah ceux qui payent les économies, c'est les Français. C'est-à-dire les services publics, les politiques qui avaient été votées et qui sont utiles pour les gens. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement en fait le coup, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est voté, enfin, en l'occurrence là il est passé en 49.3, et puis dans le cours de l'année, on revient sur ce qui a été décidé, et on fait de la réduction d'effectifs, de la réduction de crédits, du gel, du surgel, tout un tas de mesures technocratiques qui visent tout simplement à déshabiller le budget qui était déjà contestable à la fin de l'année. Ça, ça va vraiment pas. Et c'est une méthode typique des macronistes. C'est-à-dire qu'on a un budget qui est insincère. On n'arrête pas de le dire. Ils font des promesses qui ne tiennent pas. Ils ont des engagements qui ne tiennent pas. Et à la fin, c'est les Français qui trinquent, et singulièrement les services publics. Parce que là, les plusieurs milliards de gel qui sont annoncés, c'est pour le transport, c'est pour les politiques sociales, c'est politique de transition écologique, tout ça est passé par-dessus bord au nom de la rigueur budgétaire. Franchement, quand on voit leurs résultats économiques, des gens qui ont été capables de creuser la dette à ce point, qui ont un déficit budgétaire qui est très mauvais, bah, je trouve que vivement qu'ils partent.
Concrètement, quels sont les programmes qui font les frais de cette purge budgétaire ? Il y a le Fonds vert qui finance la transition écologique des collectivités territoriales, le programme d'investissement France 2030, la mission recherche et enseignement supérieur, le programme accès et retour à l'emploi, la mission écologie, développement et mobilité durable, la mission cohésion des territoires qui finance la politique de la ville, l'urbanisme et l'amélioration de l'habitat, etc. 100 millions par-ci, 30 millions par-là, le coup de rabot peut paraître indolore. Et pourtant, c'est l'avenir du pays qu'on hypothèque. C'est bien gentil de mettre en avant Choose France, mais si derrière on flingue tout ce qui peut améliorer la compétitivité du pays et sa cohésion sociale, à quoi ça sert ? Pour Éric Coquerel, ces économies ne font qu'aggraver la situation économique du pays.
Le gouvernement répète toutes les erreurs commises du coup pendant les crises de la décennie passée, c'est-à-dire qu'en baissant la dépense publique pendant une crise, il l'aggrave, puisque je rappelle à mes collègues que la dépense publique, ce sont aussi des recettes, et que lors des grandes crises économiques récentes, ça a évité même ces dépenses publiques que la France ne rentre en récession, tellement le marché privé, lui, l'était de manière plus importante. Vu l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui, l'étape du projet de loi de finances rectificative, vous le savez, est pour moi obligatoire pour cesser avec le fait d'envisager uniquement des coupes budgétaires et de pouvoir faire en sorte que le Parlement décide aussi, par exemple, de discuter de recettes, je pense sur les grandes entreprises ou les ultra-riches, pour compenser une partie de ces dépenses. C'est la raison pour laquelle je continue, pour ma part, à revendiquer cette nécessité.
Comme le souligne le président de la Commission des finances, les députés ne peuvent pas se prononcer sur ces coupes budgétaires. Seul le dépôt d'un projet de loi de finances rectificative par l'exécutif leur permettrait d'arbitrer entre coupes budgétaires et recettes fiscales, une éventualité que le gouvernement repousse. Résultat, Bercy fait sa petite tambouille, sans témoin.
Je trouve ça tout à fait insupportable d'entendre que Bercy gèle des crédits supplémentaires. C'est pas la question de la bonne ou de la mauvaise gestion que je trouve insupportable dans ce sujet-là. C'est le fait que, non seulement, le budget passe en force par 49.3 pour la xème année consécutive, mais qu'en plus, ça veut dire que finalement, c'est Bercy, dans l'exécution du budget, qui décide in fine qui a le droit de dépenser quoi, qui a le droit ou pas, et qui voit ses crédits gelés, sans même en parler au Parlement, sans même en informer le Parlement, et finalement en dépit de ce qui aurait pu être discuté avec les parlementaires. Le budget, la manière dont on dépense l'argent des Français, c'est quand même l'acte politique et parlementaire par excellence. Et c'est encore une manière que les hauts fonctionnaires de Bercy et que le gouvernement a trouvé pour aller contourner finalement notre souveraineté parlementaire. Donc moi je trouve ça insupportable. Peu importe quel type de crédit, peu importe pour quoi faire, il n'y a encore pas de dialogue avec les parlementaires sur ce qui fait pourtant l'essence même du dialogue politique.
Pas du tout, lui rétorque Perrine Goulet, la porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. C'est de la bonne gestion. Ces 6 milliards d'économies viennent compenser ce que l'État a déboursé en aides ciblées.
Il y a eu 6 milliards d'aides et de nouvelles mesures. Et le Premier ministre l'avait bien dit, toute nouvelle mesure fait en sorte qu'à un moment, il faut baisser d'autant les dépenses. Donc c'est ce qui a été fait depuis trop longtemps dans notre pays. On crée des mesures en milieu d'année on met des nouvelles dépenses et eh bien, on ne met pas les recettes en face. Bien là, on a une stabilité du budget, on a des nouvelles dépenses. Bien malheureusement, il faut un moment ou un autre trouver les recettes ou les moindres dépenses.
Dans cette histoire, les socialistes ont l'impression d'être les dindons de la farce.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le Parlement soit démocratiquement consulté. Si c'est des orientations budgétaires qui sont contraires à celles qui ont été définies dans le budget, je précise par exemple que les socialistes se sont battus pour réviser à la hausse le fonds vert, pour engager la rénovation thermique des bâtiments et que ça faisait aussi partie des négociations dures avec le gouvernement, c'est pas ce qui a été convenu. Et donc, en effet, à un moment, il faut aussi passer par des étapes démocratiques et de transparence et pas en catimini comme ils semblent vouloir le faire.
Encore un peu et ils vont finir par regretter de ne pas avoir censuré le budget du gouvernement. À la fin de ce mois se tiendra un comité d'alerte sur les finances publiques. Il fera à nouveau le point sur l'exécution budgétaire, la croissance et l'inflation. On peut parier sans grand risque sur l'annulation des crédits déjà surgelés et le gel de nouvelles dépenses. Avis de grand froid en perspective. Quand je m'ennuie un peu à l'Assemblée, ça arrive, je demande aux socialistes comment va leur parti. Et à chaque fois, j'en sors revigoré.
Il va bien.
Regardez.
Comme le groupe.
Motion B, motion C, motion A. Voilà, on est tous les trois, on s'entend bien, on travaille ensemble. Voilà, donc tout va très bien au Parti Socialiste. On débat comme d'habitude, c'est pas le cas dans tous les partis. Nous, on continue à débattre, à discuter. Voilà, et on avance sur notre projet. Vous savez que la phase d'amendement est terminée. Toutes les fédérations sont libres. Il y avait plus de 100 personnes dans ma fédération pour débattre et amender de ce projet qui sera soumis au vote des militants le 25 juin. Donc le 25 juin, on aura un projet. Et puis juste après, on aura un candidat. Vous en faites pas.
Heureusement, en coulisses, les langues se délient. Et la dernière proposition d'Olivier Faure a plongé tous les courants dans un abîme de perplexité. Était-ce parce qu'il rentrait d'un séjour à Taïwan ? Toujours est-il que le premier secrétaire du PS propose une primaire à deux étages. Dans un premier temps, le PS et ses sympathisants, Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann et la convention de Bernard Cazeneuve seraient appelés à désigner un candidat commun. Puis une seconde consultation intégrant cette fois les écologistes, les amis de François Ruffin et ceux de Clémentine Autain désignerait le candidat de toute la gauche hors LFI. Une usine à gaz qui ne verra pas le jour. L'entourage de Raphaël Glucksmann a déjà fait savoir que le candidat se refusait à participer à quelque primaire que ce soit. Quant aux écologistes, la crise est totale, au point qu'ils ont annulé mardi leur point de presse hebdomadaire, histoire d'éviter d'étaler leur division. Les députés du groupe seraient en effet tentés de répondre favorablement à la fameuse offre fédérative formulée par Manuel Bompard. En clair, se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. Cette option serait même majoritaire selon certains élus. J'ai demandé à Sandrine Rousseau de m'éclairer.
Non, il n'y a pas, enfin moi en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas une grande majorité, il n'y a pas tout cela. Après, il y a un questionnement au sein du groupe écolo sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on nous envoie dans un tunnel dont il n'y aurait qu'une seule issue. Ce serait un accord avec le Parti Socialiste. Et donc, je pense que les députés veulent participer au débat, débat qui manque cruellement dans notre parti. Donc, je pense qu'on en est à ce niveau-là aujourd'hui. Le groupe parlementaire, dans son ensemble, d'ailleurs, y compris ceux qui prônent les options d'alliance avec le PS, souhaitent que nous participions au débat et qu'il n'y ait pas une confiscation d'un débat stratégique d'une importance cruciale au moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. De ce que je comprends de ce que fait le Parti Socialiste actuellement, c'est qu'il voudrait faire une désignation en interne avant de participer. Mais pour moi, ce que fait le Parti Socialiste, c'est exactement cette histoire de tunnel. C'est-à-dire qu'ils veulent nous gagner du temps, désigner leur candidat et ensuite nous proposer un accord. Je ne crois pas un instant qu'aucun des candidats socialistes à la présidentielle ne veuille réellement de cette primaire. Et nous, nous avons fait une primaire socialo-dépendante. D'où l'erreur.
On n'a pas fini de ricaner ou de pleurer devant ce suicide collectif permanent. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce et partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de sauter le pas. Pour nous soutenir financièrement, ça se passe sur DonorBox. Sans vos dons, cette chaîne n'existerait pas et ne peut continuer à se développer. Alors, on compte sur vous, même si c'est difficile par les temps qui courent. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.